Chapitre 4 Verset 1 Citation de l'Écriture. Maître, accordez à vos esclaves ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi vous avez un maître dans les cieux. Fin de citation. Ce verset a été vu avec les versets 22 à 25 du chapitre 3, auquel il est rattaché. Les maîtres doivent agir envers leurs esclaves dans la crainte du Seigneur, sachant qu'ils ont un maître dans le ciel. Ce faisant, ils donneront à leurs esclaves ce qui est juste et équitable. Versets 2 à 4 Citation de l'Écriture. Persévérez dans la prière, veillant en elle avec des actions de grâce, priant en même temps aussi pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, pour annoncer le mystère du Christ, mystère pour lequel aussi je suis lié, afin que je le manifeste comme je dois parler. Fin de citation. Ces exhortations spéciales à différentes personnes se terminent par une exhortation générale à la prière qui s'applique à tous les saints. Le simple fait de connaître la pensée du Seigneur pour chacun dans ses relations ne suffit pas. La connaissance en soi n'est pas la puissance. Nous devons être gardés dans l'attitude de dépendance qui est celle de la prière si nous voulons mettre en pratique les exhortations. Nous sommes donc exhortés à persévérer dans la prière, veillant en elle avec des actions de grâce. Persévérer dans la prière implique non seulement de se tourner vers Dieu dans certains besoins spéciaux, mais une attitude habituelle de dépendance de Dieu. Le psalmiste peut dire « Le soir et le matin et à midi, je prie. » Psaume 55, verset 17, selon la traduction anglaise. La version française dit « Le soir et le matin et à midi, je médite. » Quelle que soit la difficulté, quelle que soit la durée de l'épreuve, même si la réponse se fait attendre, nous devons persévérer dans la prière. La prière doit être accompagnée de vigilance et d'action de grâce. Le Seigneur a averti ses disciples de veiller et de prier. Il est inutile de prier en rapport avec une tentation particulière ou un piège, si en même temps nous n'y veillons pas. La vigilance à propos de la prière se rapporte à ce qu'on attend comme réponse à la prière, et dans ce sens, nous devons surveiller la réponse. Exhorter d'autres à prier conduit l'apôtre à sentir son profond besoin des prières du peuple de Dieu pour lui-même. C'est pourquoi il demande leur prière pour que Dieu lui ouvre une porte pour la parole, et que la porte étant ouverte, il soit en mesure de présenter le mystère du Christ et de le faire d'une bonne manière, comme il doit parler. Versets 5 et 6 Christ exprimé envers ceux de dehors. Citation de l'Écriture. Marchez dans la sagesse envers ceux de dehors, saisissant l'occasion. Que votre parole soit toujours dans un esprit de grâce, assaisonné de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. Fin de citation. Enfin, nous sommes exhortés en rapport avec notre marche et nos conversations avec ceux qui sont hors du cercle chrétien. Une bonne marche requiert de la sagesse et d'être prêt à saisir les occasions qui se présentent de parler pour le Seigneur. Le danger que nous courons est d'avoir de la sagesse, mais en manquant de hardiesse, ou de manifester une grande hardiesse, mais avec peu de sagesse. Nous sommes porteurs d'un message de grâce qui doit être exprimé en paroles de grâce. En même temps, notre parole doit être assaisonnée avec le sel de la sainteté. En parlant de cette manière, notre grâce ne dégénérera pas en se mettant à passer légèrement sur les péchés, ni notre fidélité en se mettant à condamner durement les pécheurs. Pour combiner correctement la grâce et le sel, nous avons besoin de la sagesse du Christ qui, non seulement connaissait la bonne réponse à donner à chaque questionneur ou opposant, mais aussi comment répondre de façon à faire face aux besoins de chacun. Versets 7 à 18 Les salutations finales. Les salutations qui terminent l'épître présentent un beau tableau de l'amour chrétien, de l'intérêt mutuel dans les circonstances l'un de l'autre et de la tendre préoccupation pour la prospérité spirituelle du peuple du Seigneur. C'est effectivement ce qui existait dans le cercle chrétien dans les jours précédant le temps où l'Église est tombée en ruine quant au témoignage uni pour Dieu et dans la division et la dispersion du peuple de Dieu. Versets 7 à 9 Citation de l'Écriture. Tichic, le bien-aimé frère et fidèle serviteur et compagnon de service dans le Seigneur, vous fera savoir tout ce qui me concerne. Je l'ai envoyé vers vous tout exprès, afin qu'il connaisse l'état de vos affaires et qu'il console vos cœurs, avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère qui est des vôtres. Ils vous informeront de toutes les choses d'ici. Fin de citation. Deux frères dans le Seigneur, Tichic et Onésime, étaient chargés ensemble de porter cette lettre à l'assemblée de Colosse. De manière très heureuse, l'apôtre peut parler de Tichic non seulement comme d'un frère, mais d'un bien-aimé frère, non seulement comme d'un serviteur, mais comme d'un fidèle serviteur, et non seulement comme d'un serviteur, mais comme d'un compagnon de service de l'apôtre dans le Seigneur. Ces traits chrétiens étaient si uniformément combinés chez ce serviteur que son amour n'empêchait pas sa fidélité, et sa fidélité n'écartait pas sa communion avec d'autres. Onésime, un des saints de Colosse, est également recommandé comme un fidèle et bien-aimé frère, quoique rien ne soit dit sur une éventuelle participation au ministère public de sa part. Il n'était probablement pas un frère ayant un don. Si nous nous souvenons que, du point de vue social, il n'était qu'un esclave, la recommandation qu'il a reçue de Paul montre à quel point il a entièrement répondu aux exhortations de cet épître pour les esclaves. Ces deux frères feraient connaître aux frères de Colosse toutes les choses concernant Paul et les intérêts du Seigneur à Rome. Pour ramener un rapport à l'apôtre, Tichic prendrait connaissance de leur état et en même temps, il consolerait leur cœur en leur faisant connaître l'intérêt profond de l'apôtre pour eux. L'amour comptait sur leur intérêt pour l'apôtre, de la même manière que son amour à lui désirait connaître leurs conditions. Versets 10 et 11. Citation de l'Écriture. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, et Marc, le neveu de Barnabas, touchant lequel vous avez reçu des ordres. S'il vient vers vous, recevez-le. Et Jésus, appelé Juste, qui sont de la circoncision. Ceux-ci sont les seuls compagnons d'œuvre pour le royaume de Dieu qui aussi m'ont été en consolation. Fin de citation. L'apôtre mentionne trois frères de la circoncision. Premièrement, Aristarque. Il était détenu avec l'apôtre au moment de la rédaction de la lettre. Il avait été un compagnon de voyage de Paul, acte 19, verset 29, un compagnon d'infortune dans le naufrage, acte 27, verset 2, un compagnon d'œuvre, Philémon 24, et pour finir, il était donc compagnon de captivité dans les liens de l'apôtre. Deuxièmement, Marc, le parent de Barnabas, au sujet duquel ils avaient déjà reçu des ordres qu'il n'était pas nécessaire de répéter et qui n'étaient probablement pas appropriés pour une lettre publique. Il semblerait que l'assemblée à Colosse avait entendu dire que Marc avait une fois tourné le dos à l'œuvre et avait encouru le déplaisir de l'apôtre, puis avait fait voile vers Chypre avec son parent Barnabas. Acte 15, versets 37 à 39. Paul voulait maintenant qu'il sache combien Marc avait entièrement retrouvé sa confiance, et pour cela, il le recommandait spécialement pour qu'il le reçoive s'il venait à eux. Ces deux frères, avec Juste, étaient apparemment les seuls frères de la circoncision collaborant avec l'apôtre pour le royaume de Dieu qui lui ait été en consolation dans son emprisonnement à Rome. Versets 12 et 13. Citation de l'Écriture. Épaphras, qui est des vôtres, esclave du Christ Jésus, vous salue, combattant toujours pour vous par des prières, afin que vous demeuriez parfaits et bien assurés dans toute la volonté de Dieu. Car je lui rends témoignage qu'il est dans un grand travail de cœur pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour ceux qui sont à Hiérapolis. Fin de citation. Nous avons déjà appris au début de l'Épître qu'Épaphras avait travaillé parmi les saints de Colosse comme un fidèle serviteur de Christ. Nous apprenons maintenant que bien qu'il ne fût plus avec eux, il travaillait toujours avec ferveur dans la prière, pour eux et pour les saints des villes voisines, Laodicée et Hiérapolis. Il semble qu'il se rendait compte que l'ennemi menait une attaque précise contre ces assemblées afin de les détourner de Christ par des séductions religieuses. En présence de cette opposition, L'apôtre parle d'Épaphras comme combattant toujours pour vous par des prières. C'est un rappel salutaire et encourageant que la prière est une arme puissante pour faire face à l'opposition de l'ennemi. En outre, non seulement Épaphras souhaitait que les efforts de l'ennemi soient déjoués, mais aussi que les saints demeurent parfaits et bien assurés dans toute la volonté de Dieu. Il se rendait compte que s'ils étaient des chrétiens adultes et établis dans la vérité selon la volonté de Dieu, ils seraient en mesure de résister à toutes les attaques de l'ennemi. Verset 14. Citation de l'Écriture. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue. Et Démas. Fin de citation. Luc est désigné comme le médecin bien-aimé, ce qui prouve que sa vocation terrestre, en tant que médecin, n'était pas incompatible avec sa vocation plus élevée dans le ministère comme compagnon de l'apôtre dans ses voyages et comme auteur inspiré de l'Évangile. La mention de Démas, sans un mot de recommandation, est de mauvais augure à la lumière de la mention finale de Démas dans la seconde épître à Timothée, où nous apprenons qu'il avait abandonné Paul, ayant aimé le présent siècle. Cela montre que l'apôtre était quelqu'un avec qui l'on ne pouvait pas continuer si l'on aimait le monde. Versets 15 et 16. Citation de l'Écriture. Saluez les frères qui sont à Laodicée, et Nymphas, et l'assemblée qui se réunit dans sa maison. Et quand la lettre aura été lue parmi vous, faites qu'elle soit lue aussi dans l'assemblée des Laodicéens, et vous aussi lisez celle qui viendra de Laodicée. Fin de citation. Des salutations sont envoyées aux frères qui sont à Laodicée et à l'un d'eux chez qui l'assemblée se réunissait. L'apôtre voyait apparemment que l'assemblée à Laodicée était exposée au même danger que ceux menaçant l'assemblée à Colosse, et il donne donc des instructions spéciales pour que cette lettre soit lue aussi au milieu d'eux. De leur histoire ultérieure, il semble qu'ils n'aient guère tenu compte des avertissements solennels de l'Épître, ou bien qu'ils les aient rapidement oubliés. Surtout ces avertissements contre l'intrusion de la chair religieuse qui détourne l'âme de Christ pour la satisfaction de la chair. Chapitre 2, versets 8, 18 et 23. Ils ont finalement été gâtés par de vaines déceptions, et ils ont été enflés d'orgueil, et ont été si satisfaits d'eux-mêmes qu'ils se vantaient de leur richesse spirituelle en disant même qu'ils n'avaient besoin de rien, quand même Christ se tenait dehors à la porte de chez eux. Il en a été avec la chrétienté comme avec l'assemblée à Laodicée. Elle n'a que peu ou pas tenu compte des avertissements de cette épître, avec comme résultat qu'elle a été contaminée par le levain du modernisme, du ritualisme et de la superstition. Comme Laodicée, la grande masse de la chrétienté professante s'est vantée de sa richesse, et malgré le nom de Christ qu'elle a pris, elle a renié la gloire de sa personne et l'efficacité de son œuvre, attend ainsi le moment où elle sera vomie de la bouche de Christ. Versets 17 et 18. Citation de l'Écriture. Et dites à Archippe, prends garde au service que tu as reçu dans le Seigneur, afin que tu l'accomplisses. La salutation de la propre main de moi, Paul. Souvenez-vous de mes liens. La grâce soit avec vous. Fin de citation. Archippe avait apparemment besoin d'un message spécial pour prendre garde au service qu'il avait reçu dans le Seigneur afin de l'accomplir. Combien d'entre nous ont besoin de cette même exhortation? Car nous pouvons nous lasser en présence de beaucoup de sujets de découragement et de beaucoup d'opposition. Notre rôle est de persévérer dans tous les petits services que le Seigneur peut nous avoir confiés, même si, pour le moment, nous ne voyons guère de résultats. L'apôtre termine l'épître par la salutation habituelle de sa propre main. Il leur rappelle ses liens, témoignage de son amour pour le Seigneur et pour les saints qui l'ont amené à supporter l'emprisonnement plutôt que de renoncer à la vérité. Enfin, il les recommande à la grâce de Dieu.